magazine de l'environnement sur RFI.
Les 160 millions d'habitants du Bangladesh font partie des populations les plus menacées par les changements climatiques. La hausse des températures fait fondre les glaciers qui gonflent les eaux du Gange, du Brahmapoutre et de leurs centaines d'affluents. Résultat, chaque année, 30 à 70% du pays est inondé et au sud, c'est l'élévation du niveau de la mer qui menace. C'est aussi l'un des pays les plus pauvres du monde où les deux tiers de la population n'ont pas accès à l'électricité. Mais quel prix faut-il payer pour produire cette électricité? C'est la question qui divise une partie de la population face au projet de construction d'une centrale d'électricité à base de charbon à la frontière de la plus grande mangrove du monde, un site classé au patrimoine mondial de l'humanité, les Sundarbans. Le gouvernement affirme que l'exploitation de cette usine n'endommagera pas cette forêt à l'écologie sensible, mais les militants écologistes dénoncent une aberration. Sébastien Farcy est allé à leur rencontre.
Une vingtaine de personnes sont rassemblées sur la place Shahbagh au centre de Dhaka et haranguent les passants grâce à un haut-parleur monté sur un vélo-taxi. Certains s'arrêtent, s'assoient et écoutent les jeunes manifestants appelés à la protection des Sundarbans, la belle forêt en langue bangla, cette gigantesque mangrove du sud du Bangladesh, la plus grande du monde et ultime réserve du tigre du Bengale ou des dauphins Irrawaddy. Cette association Moholik Bangla proteste contre la construction en cours d'une usine de production d'électricité à base de charbon qui doit se situer à 14 km de la frontière officielle de cette réserve naturelle classée au patrimoine mondial de l'humanité. Jahid Jogod est l'un de ses militants.
Les gens ne connaissent pas la richesse des Sundarbans, mais cette réserve est la mère nourricière des Bangladais et de beaucoup d'autres populations. Il y a des milliers de plantes qui servent à faire des médicaments ayurvédiques. On utilise le venin de serpent des Sundarbans pour en faire des traitements contre le cancer. C'est un espace très riche qu'il faut préserver.
La plupart de ces manifestants ont mené une longue marche de 2 semaines entre la capitale et les Sundarbans. Aux abords de cette forêt, ils affirment avoir été repoussés violemment par la police et les militants du parti au pouvoir, l'Awami League. Sharaduddin Tito témoigne.
J'étais présent à ce moment-là. Les militants de l'Awami League nous ont frappés et la police ne nous a pas défendus. Nous n'avons pas été soutenus par les services publics. On nous a confisqué nos caméras, téléphones et ordinateurs portables. Ensuite, quand on est allé à l'hôpital pour nous faire soigner, la police a dit aux médecins de ne pas s'occuper de nous.
La grogne monte depuis des années. Le projet est en effet né en 2010 avec la constitution d'une joint venture entre des entreprises indiennes et bangladaises et qui sera en charge de gérer cette future centrale de 1320 MW sur le site de Rampal. Les travaux de terrassement ont déjà commencé. Le contrat définitif qui permettra la construction de l'usine doit être signé avant la fin de l'année et l'usine pourrait alors démarrer dans environ 4 ans. Des scientifiques ont rejoint cette protestation pour démontrer, chiffres à l'appui, les effets destructeurs que pourrait avoir ce projet, ceci avec plusieurs arguments. D'abord, cette centrale aura besoin de 12 000 tonnes de charbon par jour et celui-ci sera transporté par bateau à travers le réseau protégé de mangroves. Les risques de pollution sont donc importants, estime Kalol Mustafa, ingénieur et militant dans la campagne contre la centrale.
Aujourd'hui, il y a des petits bateaux qui naviguent dans les Sundarbans sur la rivière Pachour. Leur taille moyenne est de 600 tonnes, des petits bateaux donc. Et ce trafic a déjà un impact considérable. Une étude de 2014 menée par l'UICN a montré qu'il y avait une érosion des rives, des pollutions à cause des graisses et d'autres déchets relâchés par ces bateaux. Cette centrale, elle va utiliser des bateaux de 10 000 tonnes. Cela créera plus de bruit, de vagues et d'érosion. L'impact sera donc bien plus important. De plus, en cas d'accident, le gouvernement n'est pas du tout préparé. Après la marée noire de 2014, ce sont des enfants qui ont dû retirer le pétrole à main nue.
Des cargos de 80 000 tonnes devraient apporter le charbon jusqu'à l'entrée des Sundarbans et le transvaser ensuite sur de plus petites embarcations qui s'engageront, elles, dans les mangroves. Le directeur du BIFPCL, la compagnie indo-bangladaise en charge du projet, affirme qu'une barge perfectionnée a été développée pour réduire l'impact écologique de ces voyages. Ujjwal Kanti Bhattacharya.
Nous allons utiliser une barge d'une capacité de 12 000 tonnes pour apporter chaque jour le charbon jusqu'au ponton. Ce bateau est construit sur mesure pour respecter la convention de l'Organisation maritime internationale. Il fera peu de bruit, émettra peu de poussière et sera complètement recouvert pour éviter que du charbon ne s'échappe. Il comprendra tout le matériel moderne de navigation pour éviter les accidents. GPS, radar, vision nocturne, et il utilisera du carburant sans oxyde de soufre.
Un autre souci est le stockage des poussières de charbon. L'usine devrait en effet en produire 1 million de tonnes par an. Ces déchets toxiques qui contiennent du mercure et du plomb sont généralement entreposés dans des bassins, ce qui pourrait contaminer les sols de cette réserve. Mais le directeur du BIFPCL affirme qu'ils ont déjà trouvé des entreprises qui étaient prêtes à acheter ces poussières afin de les utiliser dans la fabrication de ciment. Il faudra voir cependant si cela se matérialise. Enfin, une centrale à charbon émet des fumées toxiques qui contiennent de l'oxyde de soufre et de l'oxyde d'azote. Des sources importantes de pollution, comme l'explique Kalol Mustafa.
L'oxyde de soufre est responsable des pluies acides et il est aussi, avec l'oxyde d'azote, dangereux pour les tissus des plantes ainsi que pour les animaux et les hommes s'ils respirent ces fumées. Dans la centrale, ils ont prévu d'utiliser un système de désulfurisation si le charbon comprend plus de 0,6% d'oxyde de soufre. Mais je ne crois pas qu'ils vont l'utiliser car cela leur coûterait entre 250 et 500 dollars par tonne d'oxyde de soufre. Et la centrale en émettra 52 000 tonnes par an.
L'UNESCO, en charge de la protection du site, demande depuis 4 ans au gouvernement bangladais de fournir une évaluation plus précise des impacts environnementaux de l'exploitation de cette centrale et des mesures pour les contenir. Mais cela n'a pas encore été fait. Le directeur du projet assure cependant que le système de désulfurisation sera utilisé en permanence et que de toute façon, ces fumées seront propagées très haut dans l'atmosphère. Monsieur Bhattacharya.
Les cheminées seront très hautes. Elles s'élèvent à 275 mètres. Cela permettra une très large dispersion afin que la concentration au sol de n'importe quel gaz soit négligeable et n'affecte ni les humains ni les plantes.
Malgré ces assurances, plusieurs organismes financiers, tels que le très riche Fonds norvégien de pension, le Crédit Agricole ou la Société Générale, ont publiquement déclaré qu'ils refusaient de financer cette centrale de Rampal car elle posait des risques environnementaux trop importants. ঈশ্বর নাকি শয়তানের দল সুন্দর বনে ছলে ওই চেয়ে দেখো ওই চেয়ে দেখো ওই চেয়ে দেখো বন্দি মাগো সবুজ বসন খুলে ঈশ্বর নাকি শয়তানের দল সুন্দর বনে ছলে থাকতে জীবন হারব না সুন্দর বন ছাড়ব না থাকতে জীবন হারব না সুন্দর বন ছাড়ব না আমার দেশ আমার মাটি আমার নদীর জোয়ার ভাটি চলো দেশের অকাল দিনে সুন্দরীদের দোলে ঈশ্বর নাকি শয়তানের দল সুন্দর বনে ঝোলে পরবাসী নাগর বেটা থাকো রঙ্গ রসে আমার দেশের মাটি দিয়া পুতুল বানাও শেষে
চিতা জ্বালাও সুন্দর বনে দেশ পুরাবি সেই আগুনে রক্তে আগুন জ্বলে রক্তে আগুন জ্বলে ঈশ্বর নাকি শয়তানের দল সুন্দর বনে চলে.
C'est l'un des paradoxes du Bangladesh. Ce pays qui subit parmi les pires inondations du monde n'arrive pas à fournir un accès à l'eau potable à sa population. Alors quand en plus les sols sont contaminés naturellement par l'arsenic, on se dit que ce peuple est maudit. Ce problème a été identifié dans les années 90 et le gouvernement, aidé par différentes agences de l'ONU et la Banque mondiale, ont testé les puits, marqué ceux qui étaient contaminés et creusé des centaines de milliers d'autres plus profonds où l'arsenic n'est plus présent. Cependant, selon un nouveau rapport de Human Rights Watch, cette vigilance a baissé depuis 2006. Les récents relevés montrent qu'environ 12% de l'eau issue de puits contient de l'arsenic à un niveau supérieur aux standards du Bangladesh qui sont déjà laxistes. Près de 20 millions de personnes courent ainsi le risque de développer des maladies de la peau, des reins ou du foie, des maux qui peuvent être mortels. Sébastien Farcy est allé à la rencontre des populations concernées dans l'est du pays.
Comment elle s'appelle l'école ici?
Elle s'appelle Chatalpur Prathamik Vidyalaya, ça veut dire école première de Chatalpur.
Et donc les enfants, ils ont quel âge ici?
Ils ont classe 5 jara pore tate boyosh koto?
6 bochor
theke. 6 bochor. Donc les enfants ici sont de 6 ans jusqu'à 11 ans.
Donc là il y a le puits qui est juste derrière le bâtiment. On peut aller voir. Comment est-ce qu'on sait que ce puits, est-ce que son eau est bonne à boire? Est-ce qu'il y a une indication?
Comme c'est installé dans une école, c'est financé par le gouvernement, donc on sait que c'est bon à boire.
Mais sinon, il y avait une indication de couleur des fois, non?
Oui, normalement il y a des indications comme la couleur verte, ouais, sont beaux, les couleurs rouges sont interdites à boire, ouais. Mais quand il n'y a pas une couleur, ça veut dire que ce n'est pas testé ou ça va être testé bientôt.
Ah, donc en fait, ce puits, on ne sait pas quoi. On peut chercher, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de couleur là.
Il n'y a pas de couleur, non.
Demande-leur s'ils la boivent, cette eau, si les enfants ils boivent cette eau, qui boit de cette eau.
Et tu as pas le temps de manger quoi? Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très bien. C'est ouvert pour tout le monde, pour les étudiants et aussi pour les habitants qui habitent ici.
Et demande à la dame qui est là, qui nous regarde, peut-être qu'elle sait s'il a été testé le puits.
Janen, je ne sais pas si vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez
fait ça. Vous avez fait ça.
Il sait que c'est sans arsenic, mais il ne sait pas comment on a testé, si on a testé ou non.
D'accord.
Donc pour le savoir, il faut parler avec le professeur de l'école.
Okay, bah très bien, on va parler au professeur alors. Nous sommes donc dans le village de Chatalpur, à 130 km au nord-est de Dhaka et à une heure de mototaxi par les mangroves de la première route goudronnée. Je suis ici avec Prianto Zaman qui a étudié l'impact de la contamination à l'arsenic dans cette région. Et nous montons maintenant les escaliers à la rencontre du principal de l'école, Mahuddin Patan. Bonjour, salam alaikum.
How are you?
Very good. And you?
Thank you. Come here.
Ce puits a été testé il y a environ 2 ans. Et à cette époque, il n'y avait pas d'arsenic, mais il n'a pas été testé depuis. Le deuxième puits, lui, est cassé, mais nous en aurions besoin. Il y a 722 étudiants et 11 professeurs dans cette école. Il y a une marque verte sur le dessus de la pompe, mais elle s'est effacée avec le temps.
Cette pompe est l'une des 125 000 installées il y a une dizaine d'années dans les campagnes du Bangladesh et particulièrement dans l'est du pays, une zone où les terres contiennent naturellement des quantités importantes d'arsenic. Ce métal extrêmement toxique, souvent utilisé comme poison à rats par exemple, se trouve dans les nappes phréatiques de surface. Donc pour l'éviter, les puits doivent être très profonds pour aller chercher l'eau à plus de 150 mètres sous terre. Mais voilà, encore faut-il que ces pompes saines soient assez proches des habitations. Or, selon le récent rapport de Human Rights Watch, cela n'est pas toujours le cas. Car l'État, d'abord, n'a pas assez de fonds pour en construire assez. Et en plus, certains élus locaux jouent de leur influence pour avoir la pompe construite devant chez eux. Nous nous éloignons à présent de l'école et du centre de ce village pour rentrer dans ce qui ressemble à un début de forêt. C'est là qu'habite la famille de Noudaloum. Une vingtaine de personnes vivent sous un même toit de tôle. Il y a une dizaine d'années, ils ont investi pour creuser un puits et installer une pompe chez eux, mais ont ensuite découvert que l'eau qui en sortait était contaminée à l'arsenic.
Donc le puits, il est dans la maison, à l'intérieur. Il est dans la salle de bain. Il y a eu une marque là, ils ont fait une marque.
Oui, les fonctionnaires ont laissé une marque rouge ici il y a 6 ans. Mais depuis, la rouille l'a recouverte et nous avons repeint la pompe.
Et c'est quelle profondeur?
Il fait 75 mètres. Je sais qu'il faut aller à plus de 100 mètres pour que cela soit sans arsenic. Donc les fonctionnaires nous ont dit de ne pas boire de cette eau. On peut l'utiliser pour se laver par contre.
Malgré tout, ils continuent à boire de cette eau, quoi.
Nous avons déjà dépensé beaucoup d'argent pour construire ce puits. Et nous ne pouvons pas investir à nouveau. Et les puits qui ont été approuvés se trouvent trop loin de la maison. Le plus proche est à 1 kilomètre d'ici, et il est dans une école. Au début, on y allait, mais c'est devenu compliqué.
Est-ce que ça l'inquiète d'utiliser cette eau à long terme pour la santé ?
Bien sûr que cela m'inquiète, car les fonctionnaires ont dit que c'était dangereux de boire cette eau. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de problème de santé. Si cela arrive, nous réagirons et on trouvera une alternative.
Le problème, c'est que les symptômes de la contamination à l'arsenic mettent plusieurs années à se déclarer. Les premiers signes sont des points noirs ou blancs sur les paumes des mains ou les plantes des pieds. Et les complications sont ensuite très sérieuses. Une consommation régulière d'arsenic, même par petites doses, entraîne des maladies cardiovasculaires, pulmonaires et des cancers.
Allez, on se rend maintenant à l'autre bout du village, dans une partie qui est justement trop éloignée des endroits où les puits municipaux et les puits gouvernementaux ont été installés, des endroits où donc les gens n'ont pas vraiment d'autre recours que d'utiliser l'eau qui est potentiellement contaminée à l'arsenic. C'est une partie qui n'est pas très riche à l'extérieur un petit peu du village, en bordure.
Donc, c'est pas une seule maison.
Ah, d'accord.
Et il y a plusieurs maisons ici. Mm-hmm. Chaque chambre est en maison.
Ouais.
Ok. Donc, et ils ont une seule puits ici pour toutes les maisons.
D'accord. Ah non, tout le monde n'est pas d'accord en fait, non ?
Non.
Ils sont pas d'accord. Il y en a qui disent qu'il y en a, il y en a qui disent qu'il n'y en a pas.
La dame, là, ouais. Elle dit qu'il n'y a pas arsenic, mais les autres disent qu'il y a arsenic.
Ah, ils ne savent pas la profondeur de... quel âge il a, le puits ? Ça fait combien de temps qu'il a été construit ?
C'est environ 50 ou 60 ans.
Et est-ce qu'il y a des gens du gouvernement, quelqu'un qui est venu tester l'eau ici, est-ce que quelqu'un le sait ?
Pani porikha korar jonno kyo ashe
ni? Na.
Ekjon eta venu pour tester l'eau ici.
Ouais.
Et il pense qu'il n'y a pas arsenic et personne n'est pas affecté en utilisant de l'eau.
Ouais. Tant mieux.
Mais parfois, la couleur de l'eau change. Elle devient rouge ou blanc à cause de l'iron.
Du fer.
Prianto me confie qu'il est déjà venu dans ce quartier et que les habitants lui avaient alors assuré qu'il y avait de l'arsenic dans l'eau, mais qu'ils auraient peur à présent de le répéter au micro, car ils craignent qu'on ferme alors ce puits et qu'on les laisse ainsi sans alimentation en eau. Un homme s'avance toutefois vers nous, la mine inquiète.
Comment ça, c'est ? Il dit que Il y a un problème dans l'eau.
Ok.
Ce puits fait 50 mètres de profondeur. Ma famille utilise cette eau et ma fille a commencé à avoir des marques sur les paumes des mains et les plantes des pieds. Et ces marques sentent très mauvais.
Vous avez été voir un docteur ?
Oui, il nous a donné des médicaments. Ma fille a commencé à aller mieux, les marques ont diminué. Mais elle a dû arrêter de les prendre et les marques reviennent.
Et ils ont dit que c'était quoi quand ils ont donné les médicaments ?
Le médecin dit que c'est à cause de l'eau.
Sur le chemin du retour, nous rencontrons le délégué public de santé pour la zone qui englobe également plusieurs autres villages aux alentours. Feroz Ahmad est instituteur et il sort de sa classe en tôle ondulée pour s'asseoir avec nous sous les palmiers. Il reconnaît que les puits n'ont pas été testés depuis longtemps, mais tient à nous rassurer sur la santé des habitants.
Nous avons testé les puits il y a 3 ans et nous avons trouvé de l'arsenic dans ceux qui sont creusés à environ 50 mètres de profondeur, mais pas dans ceux plus profonds, d'environ 100 mètres. Il est vrai que les habitants ne sont pas toujours bien informés. D'abord, ces derniers tests remontent à 3 ans. Et la situation a pu changer. Et puis, ils utilisent aussi de l'eau contaminée pour cuisiner, ce qui est dangereux. Mais ils ne le savent pas. Cependant, selon notre sondage mené il y a 2 ans, il n'y a pas de victimes de l'arsenic. Certaines personnes ont développé des marques sur les mains ou sur le cou, mais c'était dû à des allergies ou d'autres maladies de peau.
Le chef du village, lui, mâche moins ses mots. Il reconnaît qu'il y a un grave problème de distribution de puits dans ce village d'environ 10 000 habitants et ne cache pas d'ailleurs qu'il a pu bénéficier de sa position d'élu pour installer une pompe dans son jardin. Un détournement courant est dénoncé par le rapport de Human Rights Watch. Binoy Rai.
Dans ce village, il y a environ 1200 puits pour 1500 familles. Mais la plupart sont contaminés. Certaines familles vont chercher de l'eau chez leurs voisins quand ils savent qu'elle est saine. Mais cela fonctionne seulement quand leurs relations sont bonnes et s'ils sont juste à côté. Sinon, ils utilisent l'eau contaminée, car ils ne vont pas aller dans une maison qui se situe loin de chez eux, où ils ne connaissent pas bien les habitants. Cela serait mal vu. Le gouvernement a ainsi installé entre 12 et 20 puits profonds où l'eau est saine. Ils sont creusés dans des lieux publics, comme des écoles ou des mosquées, et tout le monde peut y aller. Il est également possible de faire des requêtes spéciales. Moi, j'avais un espace vide en face de ma maison. J'ai payé 5000 takas, environ 55 euros, au gouvernement pour qu'il l'installe sur mon terrain.
Tout le monde admet donc qu'une grande partie de la population de ce village boit de l'eau contaminée à l'arsenic. Personne ne sait en quelle quantité, ni depuis quand. Mais l'absence de symptômes graves ne signifie pas non plus que ces habitants ne sont pas en train de s'intoxiquer. C'est ce que nous explique l'un des médecins du village qui préfère rester anonyme.
Il y a entre 7 et 10 ans, il y avait de nombreuses victimes de l'arsenic ici. Mais après la campagne d'information publique menée il y a 10 ans, cela a commencé à baisser. Personnellement, je n'en ai plus vu ces derniers temps. Mais c'est vrai que s'il y a de nouvelles pompes qui sont installées, on peut à nouveau voir des cas d'intoxication. Il faut toutefois attendre entre 5 et 7 ans avant de constater les premières marques sur le corps des personnes. Donc les dommages qui peuvent être créés aujourd'hui ne seront pas visibles avant quelques temps. En plus, les personnes pauvres dans ce village ne vont pas forcément voir le docteur pour de simples symptômes cutanés. Par contre, une fois que ces marques se déclarent, il faut suivre un traitement spécial pendant au moins 1 an et arrêter de boire de cette eau pour qu'elle disparaisse. Sinon, cela peut endommager des organes comme les poumons et le foie et potentiellement se transformer en cancer.
Une étude a estimé que 43 000 personnes mouraient chaque année au Bangladesh à la suite de maladies provoquées par la consommation d'arsenic. Elle évalue également qu'entre 1 et 5 millions d'enfants nés entre 2000 et 2030 mourront de cette contamination. Dans son récent rapport, Human Rights Watch recommande donc au gouvernement de mettre en place des politiques à long terme pour mesurer la concentration d'arsenic dans l'eau qui sort des puits, afin de ne pas dépendre d'impulsions politiques ni de dons d'organisations internationales. Cela passerait par la création d'un organisme permanent de mesure de la qualité des eaux, qui devrait également être indépendant du gouvernement et des agences publiques, afin que les élus et les fonctionnaires locaux ne puissent pas détourner ces sources d'eau vitales pour des millions de Bangladais.
Ces reportages de Sébastien Farcy ont été réalisés par François Porcheron. Demain, nous vous emmènerons en Sicile où les aides financières de la politique agricole commune sont détournées par la mafia et nous ferons le point de la mobilisation internationale contre les changements climatiques 6 mois après la conférence de Paris et à 6 mois de celle de Marrakech. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.